Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur CFM, vous êtes bien à l'écoute de la Poémière, et oui, surprise, surprise, j'imagine votre déception de ne pas entendre ce soir la douce voix d'Isabelle, mais figurez-vous qu'Isabelle, profitant d'une journée qu'elle pensait belle, a pris son vélo et a bêtement chuté sur une plaque de verglas. Et c'est tout bêtement cassé la cheville. Voilà, donc nous avons décidé ce soir de vous offrir une spéciale Isabelle de Meckenem en bouleversant nos programmes de longtemps établis. Après tout, la télévision se permet de changer des programmes lorsque meurt un acteur dont elle n'a jamais parlé. Soudain, dès qu'il est mort, on s'intéresse à lui, on... Donc voilà, une spéciale Isabelle de Meckenem, une cheville méritait bien une émission. Isabelle est dans nos studios, elle est venue clopin clopant nous livrer quelques-uns de ses poèmes. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Michel, j'ai pas la langue cassée, heureusement.
Heureusement pour nous. Isabelle, un premier poème pour nous mettre en bouche ?
Oui absolument, c'est sur l'écriture et puis vous verrez bien. J'entreprends un voyage au long cours. Le mot me transporte déjà au bord du Mississippi ou aux sources de la Tamise grise. Journey sera le mets de choix, cette entreprise qui nous emmène plus qu'aucune autre. Elle nous dessine et nous trace les contours de la silhouette, cette expédition dans l'autre lieu. Partir de nulle part pour se rejoindre soi-même, là où tout pourrait faire penser que les retrouvailles ne se feraient pas. Pérégrinations fortuites qui n'ont d'objet qu'elles-mêmes, affranchies des grincements des portes de l'esprit mis à nu.
Très joli poème, Isabelle, merci. Donc Isabelle, te voilà immobilisée, toi qui es une forcenée, je dirais, de la balade, que ce soit à pied, à vélo. Te voilà condamnée à regarder la pluie tomber derrière tes carreaux.
Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai choisi ce soir de vous livrer une certaine sélection de poèmes sur la pluie. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce que Verlaine a chanté la pluie. Et ensuite, j'ai lu un livre de Guy Joffet sur la pluie et qui se rapportait à Verlaine. Et je me suis dit, bien moi aussi, je vais me lancer derrière ces traces.
Lançons-nous sur ces traces mouillées.
À toi, Verlaine. Tous ces rideaux de pluie luisant sur les ardoises, éteignant larme à larme les réverbères devinés derrière la bruine. La petite fille aux allumettes enterre ses feux follets et regarde, rêveuse, le chat noir passer la patte derrière l'oreille. La voilà telle que je la désire, telle que je la regarde, la belle transparente, fine, monotone, continue. Dans sa robe de langueur. Si possible, la cacher avec la crotonne et puis la lampe à huile pour mieux la déguster. Lutter contre le gris, se parer de couleurs et traverser l'embrun, les lames qui scindent mon paysage et lui font grise mine. L'orage éclate, tombant sur son décor. Il sert une rincée pour oublier encore. Le tip-tip de l'eau qui s'ébroue dans les feuillages s'allège du poids lourd des nuages. Tous ces cauchemars ont fini de claquer sur l'asphalte. La pluie de mots s'amenuise. La flaque minuscule porte son matricule. Tu te mires enfin dans un jour incertain. Vacillant dans la transparence lumineuse d'un ciel délavé.
Voilà bien un texte à écouter au coin du feu, en rajoutant une bûche au foyer. Alors, un texte d'Isabelle. Chaque rayon de pluie m'entraîne dans un cercle concentrique, formé à la surface du ruisseau. Une goutte efface des larmes jadis retenues. Le cercle vient s'étendre dans un son mat et disparaître dans le ruisseau limpide aux teintes d'émeraude et de jade. Je jette dans chaque flic-flac un éclair fugitif. La pupille s'irise de réfractions en miroir sur la berge goulue. de vieux troncs humides aux mains sombres intègrent et lèchent les larmes d'un monde silencieux. Et je pleure, et je meurs dans un cri étouffé. L'expression du ciel ami a fait déborder le vase de mes sentiments gourds. L'immense tristesse plonge dans la longue vasque du lit de la rivière. Cry, baby, cry. Pam 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 pam
pam pam pam pam. Isabelle, reprête-nous ta voix pour un petit texte, une journée pluvieuse.
Sans écrire. Je voudrais dire que il y a un écrivain qui a fait un texte qui s'appelle Frankenstein, que tout le monde connaît par cœur, Mary Shelley. Et Mary Shelley a écrit ce texte lorsqu'elle faisait un concours avec des amis, un jour de pluie. Donc ils ont tous écrit une histoire et elle a gagné. Effectivement, c'était une histoire formidable. Comme quoi le temps inspire. Une journée pluvieuse sans écrire. C'est tout justement impossible. J'ai donc attrapé une gouttelette d'eau fine qui passait par là, et je l'ai pressée. Son odeur de foin détrempé m'a remportée au loin dans un creux de souvenirs. C'était une étable très haute, avec des bottes de paille noircies, entassées jusque dessous le toit de tuiles. Je devais grimper pour dormir là-haut, au creux de la nuit, car nous étions arrivés, enfin. L'instant de ce confort incroyable en terre inconnue et en terre d'épuisement, chez ma tante, nous ravissait, ma cousine et moi. Car nous étions seuls à nous savoir arrivés là. Ma tante ne nous attendait pas. Donc, chose merveilleuse pour nous, elle ne s'inquiétait pas. Elle dormait, tout simplement. Nous avions été seuls avec nos deux ânes pour cette expédition magique. Seuls à deux. Seule l'amitié entre deux êtres peut vivre cela. Puis s'était ensuivi l'instant de cette minute d'arrivée, sans fanfare ni trompette, lorsque nous avions terminé ce périple long, le long du Lot, pour rejoindre la ferme. Et c'est cette nuit d'été qui en fut le témoin. Nous étions les reines mages, les secrètes poétesses incantatoires marchant silencieusement aux côtés de nos bourricots. Ah, ils avaient bonne vie auprès de nous. Ils partageaient nos maigres morceaux de pain et nous ne les montions pas pour ne pas trop les charger. Mais quelle douce compagnie que celle d'un âne. Nous étions alors vierges de toute peur, trop occupées à marcher de nuit pour nous trouver surprises au réveil lorsque ma tante vint traire les vaches et vit au-dessus de sa tête nos visages repus de sommeil, les cheveux empaillassés, le regard encore étourdi de mille rêves embrumés.
CFM, la poémière. Ah, langueur monotone des pluies d'automne. Mais voilà, Isabelle, que l'hiver frappe à la porte et que les gouttes de pluie se font flocons pour réveiller en chacun de nous notre âme d'enfant qui sommeillait. Parle-nous un peu de neige, Isabelle.
Alors, La Neige, c'est un poème que j'ai écrit l'année dernière, lorsque j'ai fait une grande balade sous la neige, en allant de Limogne à La Cavelle-Livron, sous la neige. C'était magnifique et merveilleux. Et donc, après, j'ai eu envie d'écrire ce poème sur la neige, qui me rappelle aussi, lorsqu'on traversait, que j'étais gamine, on traversait en voiture le Massif Central, et mon père disait toujours « c'est magnifique, c'est merveilleux », alors qu'on risquait de rester coincé, et ça m'est resté, voilà, même coincé, ça reste beau.
Je me souviens d'une promenade, un jour de neige, et je disais, non, je ne prends pas mon appareil photo, c'est trop facile, toutes ces photos de la neige. Par contre, il y a beaucoup moins de texte sur la neige, il me semble.
C'est vrai, il semblerait peut-être que c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on déguste comme ça, sans en parler.
Heureusement que tu es là, nous t'écoutons Isabelle.
Aujourd'hui, il neige. Cette lente précipitation ouateuse, cotonneuse et douillette vient semer devant mon regard étincelant de joie un rideau interminable de boules blanches. La chute douce se fait tendre, formant sur les arbres durcis un manteau de barbes à papa. La neige. Il neige enfin sur les toits de Kélus, et ce léger linceul vient se poser délicatement sur les chemins frileux. Chaque animal y laissera sa marque, furtif, puis le pas lourd de l'homme s'enfoncera dans la mousse ouateuse formée sur les chemins. Pas plus que nécessaire, les traces humaines se font utiles. Et au bout de la neige, même les chemins creux deviennent ovales. L'église du bourg revêt son bonnet rond sur son clocher pointu. La neige, ô neige tant attendue, annoncée par une pluie froide, dure et massant les visages, la voilà. Sans elle, point de douceur ni de souvenir en chantilly. Elle est la mousse que le ciel découpe avec la lame du vent sur le visage imberbe de la colline nue. La fabuleuse, reine de tous les rêves, songe de tous mes Noëls, danger de tous les instants où tout redevient de glace comme dans le palais d'un conte de fées. Les bruits sont étouffés. Les cris du silence s'enfoncent dans l'étoile des neiges à corps perdu. Je tiens là, entre deux flocons d'amour, une sentinelle, garante de l'instant, émoussée, perdue, dans une enfance lointaine. Je joue, le visage collé à la vitre, les mains tendues vers le ciel, affrontant la froidure pour recevoir cette manne délicieuse. Aujourd'hui, j'ai 5 ans.
Isabelle, la neige, une jambe cassée, de quoi inciter un peu à la paresse, cette paresse obligatoire un petit peu pour toi?
Oui, alors la paresse, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, parce que l'oisiveté, finalement, de moments d'oisiveté se créent beaucoup de choses. Et donc, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Paressoir ». C'est un mot inventé, j'avais envie de ce mot-là.
Soyons fous.
Depuis toujours, j'ai vécu dans un grand bain d'oisiveté, mais je n'ai jamais perdu pied. Avec elle, j'ai construit les plus beaux rêves, transformant des visages obligatoires de ma scolarité en monstres à force de les regarder fixement tout en levant les yeux au ciel. Ils m'ont appris le rêve éveillé, ou comment construire un monde à partir de l'ennui viscéral. Quelle chance! Puis ensuite, j'ai exercé mon esprit à traduire les ordres et paroles fastidieuses de mes pères qui cherchaient à me contraindre d'une manière ou d'une autre. Bref, je me suis bien plus souvent amusée avec moi-même qu'avec toutes ces mondanités qu'on impose aux enfants et qui ne veulent rien dire. C'est ainsi que j'ai commencé, sans le savoir, le monologue du crayon. Une épopée qui retrace sans concession les bienfaits de la paresse. En la recherchant, on la perd irrémédiablement. Qualité acquise comme un don des fées, la paresse semble donner à bien peu de monde. Aussi, l'âme se trouve-t-elle son compte en ceux qui songent et peut-elle se développer à son aise ? Étoile de mer colorée qui ne sert à rien qu'à s'accrocher à des roches qu'elle emprunte en guise de deck chair, ce transat qu'on utilise lorsque l'on est en haute mer. Les rayures de la paresse sont infinies.
La paresse, elle commence au lever du jour, qui est le titre de ce poème d'Isabelle que je vais vous lire. J'ai dans mes rêves ancrés une feuille de musique qui me chante les airs désuets, pathétiques. Il nous faudrait savoir où se trouvent les aurores derrière le rideau d'ombre et la colline d'or. J'aime sa sombre croupe abritée d'oliviers, ses entrailles magiques abritant l'épervier. Le cri du matin seul est un berceau magique où l'oreille ressource ses muses empiriques. Le soleil fait attendre sa coupole de feu, la nature reste coite en admirant son Dieu. S'il existe un miracle qu'il se passe aujourd'hui, que la paix sourire les hommes tue l'ennui. Les chemins ont ouvert leurs voies de tendres brumes, refermant à jamais les odeurs de prunes éparpillées dans l'ombre de vos sombres adieux. J'ai cru devoir dormir d'un doux sommeil pieux. Mais j'ai voulu revoir les chemins faméliques. Si c'est la plume rose qui vole vers le port, j'entends les brumes claires recouvrir les sentiers. L'organdie affaiblit l'acropole des cieux et l'eau qui se referme autour de chaque puits enterre à toute heure le discours de la plume, ce monologue de miel aux heures fatidiques.
CFM, la Bohémière. Donc, Isabelle, cette cheville cassée est une véritable punition pour toi parce que, nul ne l'ignore, tu es une véritable adepte du déplacement, du mouvement, du voyage. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ton premier recueil qui est paru aux éditions La Patte de Chat est intitulé Rue des Errances. Tu as toujours voyagé, bougé, tu es parti à l'étranger, mais surtout tu connais les voyages à courte distance et même le voyage immobile.
Et oui, en fait, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vrai, me déplacer à pied ou à bicyclette, c'est sillonner les chemins. Et c'est vrai que pour moi, quand j'habitais en région parisienne, je rêvais toujours des chemins creux qui séparent Quélus et la Capelle. C'était une sorte d'image récurrente qui me permettait de garder une sorte de force intérieure que je n'avais pas toujours. Et quand je la perdais, je repensais aux murettes et aux chemins creux du Causse.
Mais la mode actuellement, Isabelle, c'est de prendre des billets d'avion pour partir se promener dans des pays où, dit-on, la vie est beaucoup moins chère et donc permet d'avoir des budgets vacances réduits si on ne compte pas le prix du billet d'avion. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de voyager ?
Je pense que chacun a sa façon de voyager. Que certains vont s'offrir un voyage très loin, mais qui aura un intérêt. Tout est dans la manière de faire les choses. Et c'est vrai qu'actuellement, je suis heureuse de voyager près de chez moi. Mais certains peuvent avoir une façon de voyager loin qui est passionnante et qui va permettre aussi d'élargir des horizons. On a beaucoup d'écrivains du passé qui ont voyagé et qui ont, comment dire, je pense à Stevenson, je pense qui ont offert après le fruit de leur découverte, de leur façon de voir les choses aux lecteurs qui, eux, ne pouvaient pas forcément bouger.
Voilà, et qui peuvent découvrir le Grand Nord en restant bien au chaud, sous des latitudes plus clémentes. Alors Isabelle, ces voyages, ces différentes façons de voyager t'ont inspiré un texte magnifique que tu as écrit. Mais avant que tu nous le livres, j'aimerais dire à nos auditeurs ta nouvelle façon de voyager, puisque condamné à l'immobilité, tu as décidé d'apprendre à jouer de la guitare.
Oui, encore que je peux encore bouger, hein, je dirais, il y a des gens qui ne peuvent même pas bouger. Et puis,
C'est le voyage en canne anglaise.
Voilà, dans ce texte, ce que je dis surtout, c'est qu'on peut toujours voyager, même quand c'est plus possible, on peut toujours bouger dans l'imaginaire. On peut partir très très loin, et comme je le disais dans mon texte, paraissoir aussi, quand la situation est archi casse-pied, on peut toujours se marrer intérieurement, ouais. Même si quelqu'un vous casse les pieds, vous traduisez ses paroles en espagnol ou en anglais, ma foi, ça vous occupe, et l'autre n'en sait rien, vous souriez gentiment et tout va bien, ça passe.
Bien sûr.
Et surtout quand vous faites engueuler, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, quand je me faisais engueuler, j'imaginais la personne dans une tenue pas très avantageuse. Ça marchait pas mal.
Bien sûr, on apprend ça aussi aux jeunes vendeurs quand ils doivent taper à la porte.
Ah, d'accord.
D'imaginer leurs clients dans des tenues difficiles. Voilà, donc tu entames ce nouveau voyage à travers la musique. Bon, tu es déjà musicienne puisque tu joues de la flûte, du piano. Et là, maintenant, tu te mets à la guitare. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'une créatrice reste une créatrice. Et à peine as-tu appris à poser deux accords sur une guitare que tu as décidé d'illustrer un de tes textes, ce fameux texte sur le voyage, avec une musique de ta composition, interprétée par toi. Et donc je demande à nos auditrices, à nos auditeurs, d'avoir cette indulgence très tendre que l'on a pour nos petits bambins que l'on voit commencer. Isabelle est une débutante à la guitare, mais déjà un talent prometteur qui pointe le bout de son nez.
Je sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas j'ai eu du plaisir à faire cette chanson parler, mais c'est vrai que pour l'instant, vous me pardonnerez, les accords se suivent pas toujours très vite.
Mais tu es tellement belle avec ta guitare blanche entre les bras. D'ailleurs, nous allons mettre une photo sur le site internet de CFM que nous vous invitons à visiter très régulièrement. Nous t'écoutons, Isabelle.
Demain, il n'y aura plus de chemin. Les routes seront barrées. les chemins barricadés. Il n'y aura plus de gué où poser le pied. Dépêche-toi de traverser. Demain, il n'y aura plus d'autoroute. Les voitures seront figées. Tu ne pourras plus oublier en allant vite, très vite, trop vite. Les avions seront bloqués sur l'aéroport encrassé. Alors, tu ne pourras que rêver en regardant le ciel. Demain, il n'y aura plus de voie ferrée. Le train sera un joujou abandonné. Alors, à la gare, tout le monde sera là à attendre. Le train qui ne passera jamais plus. Dépêche-toi de prendre ton billet. Dépêche-toi d'acheter pour partir en voyage. Ton voyage dans l'imaginaire. C'est le monde de la consommation qui te le mange. Dépêche-toi d'acheter ce qui jamais ne s'achète. Un voyage dans l'imaginaire. Un voyage à Tombouctou. Un autre baléare. Achète, achète des voyages. Voyage au centre de la terre. Voyage sur les flots. Voyage autour de sa chambre. Voyage et fais le tour de ton cœur. Voyage au rythme de ses artères et du cœur qui palpite. Voyage avec mes saisons et nos feuilles jaunissantes de l'automne. Voyage vers l'hiver tout proche. Voyage vers la bûche qui offrira ce feu sacré de la vie qui bouge, qui danse. Offre-toi la gratuité de l'imagination. Offre-toi les myriades de couleurs et de chants d'oiseaux. Demain, peut-être, le chemin sera effacé. Mais je sais que tu marcheras encore. Tu braveras les barricades. Les ponts noyés sous la mer ne te feront pas peur. Tu couvriras les bruits de moteurs d'avion, de voitures et de camions. Inlassablement. Marche. La marche sera prospère.
Isabelle, je disais un petit peu sur le ton de la plaisanterie en introduction de cette émission que la télévision, bien souvent, s'empresse de rendre hommage à des personnes qui viennent de décéder, quand bien même on n'en a guère parlé de leur vivant. C'est encore plus vrai dans le domaine de la poésie, où dès que l'on parle poésie, on nous cite nos illustres prédécesseurs, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, j'en passe et des meilleurs, et... La question se pose souvent, pourquoi cet acharnement à vouloir parler des morts quand il y a tant de talents vivants qui nous entourent ?
Et oui, donc j'ai croisé un voisin qui écrit une poésie très 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 belle, que j'aime énormément, d'ailleurs qui est passée sur les ondes de CFM à la Poémière l'année dernière, qui s'appelle Graham Hena. Et je trouve sa poésie vraiment magnifique. Il a écrit notamment un poème sur Notre-Dame des Grâces à la Capelle, qui est vraiment très fort, très beau. Et donc, en revoyant Graham, je me suis dit, mais pourquoi n'écoute-t-on pas les gens qui ont des choses à dire, et notamment les poètes, mais aussi les gens qui ont des choses à dire, et qui sont là pour les dire.
Ne crois-tu pas que c'est un peu la peur que les gens ont de se rendre compte qu'un poète, un écrivain, un chanteur, n'importe quelle personne qui a un talent, pour finir, n'est qu'un homme ou une femme comme les autres. Et peut-être que le public a besoin de stariser, d'idéaliser et de rendre inaccessible la personne qui écrit. Et peut-être qu'on ne peut pas considérer que son voisin est un grand peintre ou un grand écrivain ou un grand musicien.
Le problème, c'est que ça vous fait de l'ombre de considérer votre voisin comme un artiste. Mais aussi, surtout, il est vivant. Il peut donc répondre. Tandis que quand la personne est morte, vous lui faites dire ce que vous voulez.
Ça, c'est vrai. Mais tu vois, je donne souvent comme exemple, j'ai mon petit frère qui est un grand peintre, qui s'appelle Vécu, et qui est un peintre de talent. Il est reconnu, paraît-il, comme un des meilleurs dans sa spécialité au monde, donc c'est quand même pas rien. Mais pour moi, j'ai du mal à le considérer comme un grand peintre. Pour moi, c'est le petit couillon qui me cassait les pieds quand j'étais adolescent et qui m'empêchait, qui venait un petit peu mettre la panique quand je ramenais une petite copine à la maison. Donc peut-être que cette réaction est tout bêtement humaine.
Parce qu'on voit aussi les gens, effectivement, à travers la manière, comment dire, la rencontre qu'on a eue avec eux. Et c'est vrai que Graham, s'il a été rencontré par des gens comme étant quelqu'un qui a été directeur d'un collège ou d'un lycée en Angleterre, c'est peut-être ce qui va rester. Mais c'est aussi parce qu'on a peur de ce que des gens peuvent vous faire découvrir. Et puis c'est difficile parce que, comme je vous dis, il est vivant, donc il pourrait bien réagir. Hein, si on dit quelque chose sur sa poésie, ça pourrait lui déplaire ou ça pourrait lui faire trop plaisir et nous faire de l'ombre. D'accord. Donc j'ai écrit un poème là-dessus, ça m'a inspiré un poème en fait.
Qu'un poème d'ailleurs, Isabelle, je vais te laisser le lire, mais il est vrai que ton action au quotidien est une action militante en faveur des poètes vivants. Ton action au sein de ton association, donc les éditions La Patte de Chat, tes interventions dans le journal trimestriel de La Patte de Chat également, tout ce que tu organises va toujours dans ce sens de la promotion des poètes vivants.
Oui, et puis en plus, c'est pas uniquement des gens qui sont reconnus sur la place publique, c'est tout le monde. Au Printemps des Poètes l'an dernier, ce qu'on a fait, c'était tout le monde qui pouvait s'exprimer sur le thème couleur femme, enfants, personnes âgées, et c'était un résultat très 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 intéressant, très varié, très coloré, j'ai trouvé ça super, il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas le meilleur, et... Moi, ça me plaît. Voilà.
Oui, tu avais organisé à Limogne, en Quercy, où tu résidais, tu avais organisé quelque chose d'assez grandiose pour le Printemps des Poètes. Et je crois que tu as des projets sur Quélus et la Capelle Livron pour ce nouveau Printemps des Poètes.
Oui, là, c'est une surprise, mais j'ai lancé un appel à texte et je le lance aujourd'hui. Ceux qui veulent écrire sur le thème du Printemps des Poètes qui s'intitule « D'infinis paysages », n'hésitez pas, vous nous envoyez à la Patte de Chat, à la Commanderie, à la Capelle, vos textes.
Donc je donne l'adresse exacte, donc c'est bien édition La Patte de Chat, la Commanderie, 82 160, la Capelle, Livron.
Voilà, et si vous pouvez le mettre sur format A4, ça nous arrangerait, et puis après la surprise, ben vous verrez bien, hein.
Voilà, et si vous avez oublié notre adresse, vous les envoyez à CFM, à l'intention de Johan, qui fera transmettre.
Merci.
Isabelle, nous t'écoutons.
Oui, et Michel aussi. On lit ce poème à deux.
Ah oui, c'est vrai. Oh, on me dit rien. En plus, c'est moi qui commence. Pourquoi porter au nu tous ces gens qui sont morts? Les vivants n'ont-ils pas leur place en ce monde? Chacun n'a-t-il pas quelque chose à transmettre là, ici, maintenant?
Pourquoi déifier certains qui sont là sous la terre, alors que sur terre maintenant, il y a tant de belles personnes qui écrivent des choses si magnifiques?
Dites-moi, pourquoi chanter la vie lorsqu'elle apparaît et déifier la mort comme si, une fois survenu, chacun devenait saint, merveilleux, starifié et startifié dans la stratosphère du cercle des élus?
Stratifié, dites-moi, pourquoi?
Pourquoi ne pas écouter ce que chacun a à dire au fond de son être le plus intime?
Pourquoi ne pas entendre la voix du barde du village, lui qui est cloué, obligé au silence? Pourquoi ne pas entendre ces cris perçants au milieu de ce magma?
Pourquoi n'écoutez-vous point le barde du village? Écoutez-le, c'est lui le chantre de la vie.
Pourquoi lui nier cette parole vive qui pourrait ciseler de la vie l'impossible échange? Pourquoi taire tous ces mots? Pourquoi ne pas leur donner vie à travers la voix du barde du village?
Ah, pour sûr, le barde du village ne ressemble à personne d'autre qu'à lui-même, et son identité qui se renouvelle à chaque seconde vous fait peur. Vous préférez vous en référer à la parole d'un mort, car jamais il ne pourra la défendre ou même vous contester. C'est tellement plus facile de croire en quelque chose qui est terminé parce que la nature morte ne vous effraie plus. La vie qui vibre et bouge, si elle n'est point innocente comme celle d'un enfant, elle vous fait peur. Vous vous réfugiez donc dans une coquille vide.
Choisissez la vie. Préférez ceux qui la disent et la vivent, ceux qui la montrent, ceux qui sont là.
Choisissez la route de ceux qui sont là, de l'instant, du maintenant. Ne prenez pas les autoroutes de plus tard, ni les traverses d'hier.
La longévité ne tient pas dans le raccourci.
Vous êtes sur CFM, bref de poésie. Isabelle, lorsque nous avons préparé cette émission, tu m'as sorti un mot qui m'a fait sursauter. Tu m'as parlé d'intertextualité. Donc il s'agit de bien articuler. Alors qu'est-ce que c'est que l'intertextualité, Isabelle?
C'est lorsque dans un texte, on trouve une référence à un autre texte écrit, littéraire, ou alors un nom d'écrivain, ou alors un emprunt à une expression qu'un écrivain a pu utiliser, employer dans un texte.
Est-ce que nous ne sommes pas tous de grands emprunteurs à ce niveau-là? Est-ce que nous ne subissons pas les influences de nos lectures?
Bien sûr, on ne fait que ça tout le temps, et donc je suis inspirée, je le reconnais, même si par ailleurs je critique le fait de s'en référer toujours aux gens qui sont morts, mais il y a quand même de belles choses. Donc dans ce texte que je vais vous lire, je parle indirectement de Lamartine, et aussi, ce qui n'a rien à voir peut-être, de Gilles Sicard, dont j'ai beaucoup apprécié la poésie.
Eh bien, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, c'est une grande soirée ce soir. Nous venons d'apprendre qu'Isabelle est une écrivain intertextuelle. Nous t'écoutons, Isabelle.
Il est temps que tu t'occupes de toi-même, que tu te donnes ce temps que tu n'as jamais eu, que tu t'ouvres aux clairières, que tu cueilles une fleur, que tu choisisses à vue quelques doux chemins creux, que tu emprunteras sans l'ombre d'un regret. Le doux papillon blanc t'indiquera la voie, volotant léger, et tu suivras son aile. Il est temps que tu t'offres des chemins de vermeil, que tu croises des pas, que tu écoutes leurs chants, que tu regardes chaque herbe qui se balance au vent. Chacune penche à son aise, se redresse à sa guise, suis-les, balance-toi au vent, bouge comme une jonquille. Caresse les étoiles, songe au soleil qui luit, effleure de tes mots la sagesse du temps. Rejette pour toujours l'infinie servitude, reprends ta voix, la tienne, ta voix de liseronne. Avec Gilles en goguette, le long des herbes folles, regarde chaque pierre, elles te disent « je t'aime ». Avec toi je ferai une petite caselle pour construire des rondelles, des quatrains sous les vols d'hirondelles, pour refaire le monde en poésie ultime, pour construire un poème, un haïku, une balade de rimes. Libre et libéré, tu écriras la route. Les chemins d'écriture ne sont pas autoroutes. Tu tremperas tes doigts dans l'encrier des fleurs. Chaque mot sera corolle et ton doux monologue essaimera l'amour en chaque cœur. Ah, je ne t'ai rien dit, mais combien je voudrais te serrer sur mon cœur, juste une ultime fois, te dire combien je t'aime, toi, femme du monde qui arpente mes jours. Toi, mère d'amour qui hante toutes mes nuits, ainsi nous bâtirons un bonheur en cascade, où la luzerne épaisse de ce champ verdoyant. Je ne cherche pas de chemin, je choisis le mien. Nous ne parlerons pas, ce sera aussi bien. Le dialogue se fait au travers du regard. Être son propre promeneur solitaire. Être son propre lac, et pourquoi pas arpenter les sillons. Surfer sur une voie toute douce, une vie en solitaire, autre que douloureuse. Si vous me rejetez, je tâcherai de m'extraire, car qu'aurais-je à vous dire, sinon un amour fulgurant.
Un poème d'Isabelle de Meckenem, « Se connaître ». Pour mieux voir où se trouve l'autre, l'être aimé. Savoir sa place qui bouge, danse et se meut dans la ronde d'un jour, pour bien voir ta joie, ta paix, tes cicatrices douloureuses en quête d'une sagesse intime. en quête d'une sagesse intime. Articuler le mot « amour » au détour d'un sentier, pour bien goûter la douceur de cette infinie caresse de ton regard. S'élancer à deux, pas à pas, sur les sentiers humides qui pleurent leurs errances. Pour être, sous les hêtres, deux sorciers demi-frères qui se retrouvent après un long détour. Les poètes ont une chance par rapport aux autres, c'est qu'ils peuvent écrire des textes dédiés aux personnes qu'ils aiment. Donc ça peut être le mari, l'épouse, le fiancé, la fiancée. Ça peut être aussi le papa, la maman. Tu as écrit des textes magnifiques dédiés à ta mère.
Oui, donc j'ai choisi de vous lire ce texte parce que je pense que ma mère est quelqu'un qui m'inspire énormément. Bon, après tout, je l'avoue, ça fait un peu gna-gna, mais tant pis. Et je lui ai écrit un poème pour elle, qui est décédée en 2001. Mais c'est vrai que ça, comment dire, je pense que j'ai beaucoup reçu d'elle et que ce don que j'ai, ou ce plaisir que j'ai à écrire, en tout cas, me provient d'elle.
Tu dis, ça fait un peu gna-gna. Je pense, tu sais, à cette image très classique du gros routier plein de muscles qui a un cœur tatoué sous l'avant-bras avec marqué « Maman ». Mais est-ce qu'on n'a pas tous un petit peu tatoué sur le cœur « Maman » ?
J'espère, moi oui.
Nous t'écoutons, Isabelle.
De tout cet amour qui nous rassuse vivre, je tairai le manque. Il n'y aura pas l'ombre d'un regret au détour d'une hutte, car l'immense océan nous sépare et nous happe. L'océan ravageur, c'est la mer absente, celle qui s'en est allée et n'a plus rien à dire, la matrice nourricière, le rêve du quotidien. Pour elle, j'ai habillé les murs de mots arc-boutés. Ils s'infiltrent dans l'interstice renflé de pierres rugueuses ou lisses. L'aspérité du sol affaiblit ma démarche. Nous errons sans ton âme et cherchons ta présence. Maman, mère de tous, est partie au trépas. Je cherche tes mille traces dans chaque herbe qui pleure. Du bois de la colline émane le fumet blanc sous des hordes de pluie et la goutte écrasée au pilon de la vitre, au revers de la feuille. L'humidité pleure chaque fleur refermée que ton cœur a semée au bord du chemin creux. L'oasis est partie et a fermé les yeux avant de nous redire ses adieux de maman.
Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langes. Et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse. Tout finira par arriver. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil, dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent, et je m'en vais. Clopin, clopin, en promenant mon cœur d'enfant, comme s'en va l'hirondelle, la vie s'enfuit à tirer d'elle, et ça fait mal au cœur. et s'en va seul, clopin, clopin.
Eh bien, merci Isabelle d'être venue dans nos studios clopin, clopin. Et nous allons bien sûr te laisser le mot de la fin.
Eh bien, je voudrais dire merci à toi, Michel, d'avoir eu cette idée. Ça m'a fait très plaisir, effectivement, de lire certains de mes poèmes ce soir. Et j'espère que ce plaisir est partagé avec nos auditeurs et auditrices. Et pour vous quitter, vous dire au revoir, je voudrais vous lire un petit poème un peu humoristique par rapport à l'an 2011. De la philosophie du rêve. J'attends qu'un poème sorte, tel un rayon de soleil au cœur de l'hiver. Mais il ne vient pas. Pourtant, c'était la bonne heure, un peu avant midi. C'est vrai qu'il est midi moins le quart. Autour des publicités de l'an nouveau. Qui veut d'un poème pour célébrer 2011 ? Surtout pas moi. Après, on est obligé de penser. Bien, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de CFM. Et pour l'année prochaine ou la prochaine émission, nous allons aborder un thème surprise. À bientôt et bonne fin de soirée à tous.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle. Nous t'espérons bonsoir. De retour et en forme aux commandes de cette émission qui est la tienne. C'était la poémière, la septième de l'année.
Retrouvez l'intégralité des émissions de la Poémière sur cfmradio.fr.